Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les stratégies des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste AEF Info, et je suis accompagnée aujourd'hui de Bernard Amanantsou, ancien directeur général d'HEC Paris, pour interviewer la patronne du milieu des business schools françaises, Alice Guillon, directrice générale de Schema Business School. Bonjour Bernard et bonjour Alice.
Bonjour Sarah, bonjour Alice.
Bonjour Bernard, bonjour Sarah.
Alice Guillon, je ne sais pas par quoi commencer, tellement vous avez de casquettes. La plus durable peut-être, celle qui vous identifie le plus, car vous êtes de ces dirigeants de grandes écoles qui font complètement corps avec leur institution. C'est Schema, l'école que vous avez créée en 2009 à partir d'une fusion, celle du CERAM de Nice et de l'ESC de Lille, et qui depuis ne cesse de grandir. Schema donc, dont vous êtes l'inamovible directrice générale depuis 15 ans, peut-on imaginer Alice Guillon heureuse ailleurs qu'à Schema?
Non, probablement, là, tout de suite.
Je l'ai dit, vous n'avez pas que cette fonction dans la vie. Vous avez aussi multiplié depuis quelques années les mandats. Vous êtes membre de la CEFDG, Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Vous êtes présidente de la CDEFM, Conférence des directeurs d'écoles françaises de management, une sorte de lobby, entre guillemets, qui défend les intérêts des écoles de commerce. Vous êtes aussi vice-présidente de la CGE, Conférence des grandes écoles, membre du comité EQUIS de l'organisme d'accréditation européen EFMD, membre du CA de la FNEJ qui coproduit ce podcast. Bref, vous êtes littéralement incontournable, Alice. Une question simple, que pensez-vous du cumul des mandats?
Alors, je plaide non coupable, puisque ce ne sont pas des mandats derrière lesquels j'ai couru. En revanche, effectivement, avec le fait d'être une femme déjà et puis avoir des positions peut-être à l'EFMD au démarrage, m'a permis d'avoir été appelée et d'être appelée dans pour d'autres mandats et d'autres fonctions. Donc je ne les ai pas nécessairement cherchées, mais je ne les ai pas refusées non plus quand on me les a proposées. Mais au bout d'un moment, ces mandats vont s'arrêter de toute façon. Donc,
Ah, vous allez les... Non, il y en a un que vous venez de renouveler, je crois.
Voilà, mais celui-ci...
À la CDEFM.
Voilà, je ne pourrais pas le renouveler encore une fois. Donc mais ce sont mes trois dernières années. C'est vrai que j'ai créé la CDEFM. J'aurai présidé 6 ans et après je vais passer la main. Et donc forcément, pour les autres mandats, probablement ils s'éteindront aussi parce que beaucoup tiennent au fait que je suis présidente de la CDEFM.
Plaisanterie mise à part, est-ce que cela vous sert d'être confluent comme ça de plusieurs cercles, clubs, associations, conférences?
Alors, au-delà de me servir moi, je pense que ça doit servir notre communauté d'école. Parce qu'effectivement, on peut être plus facilement dans les décisions, participer aux discussions et influencer, puisque ça fait partie aussi de nos métiers, influencer aussi les décisions. Donc si c'est au service de la communauté, oui, je pense que ça sert la communauté. Après, est-ce que ça sert mon école en particulier? J'essaye de veiller à ne jamais mélanger ce que je fais pour Schema et ce que je fais pour la communauté. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir nécessairement de lien. D'aucuns diront, oui, mais malgré tout, il y a une répercussion sur l'école. Tant mieux, si c'est positif, mais ça n'est pas recherché.
Alors, vous avez utilisé le mot d'influence. Je ne vais pas refaire tout votre CV, mais il y a quelque chose que nos auditeurs ne savent peut-être pas de vous. C'est qu'à l'origine, vous êtes une universitaire spécialiste d'intelligence économique et que vous nourrissez une passion, je crois que je peux employer ce mot, pour les questions de défense et de sécurité. Vous avez été auditrice à l'Institut national des hautes études de sécurité, à l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous avez été une proche de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, qui vous a remis l'une de vos décorations, je crois. Vous avez été co-autrice du rapport référentiel en intelligence économique commandé par Alain Juillet, c'était en 2003, membre du Conseil économique de sécurité de Michel Alliot-Marie en 2008. Bref, c'est de là que vous venez, de ce monde-là, et on a envie de savoir en quoi vos activités d'aujourd'hui, à la tête d'une école qui est quand même présente dans 6 pays, 7, s'apparentent de près ou de loin à de l'intelligence. Est-ce que vos campus sont comme des mini-ambassades ?
Oui, je pense que oui. En tout cas, j'essaie de les définir comme ça. Et il est vrai que le passé autour de l'intelligence économique m'a aidé sur plusieurs plans pour monter ces sites. D'abord, effectivement, la géopolitique et le fait d'avoir accès à de l'information de première main pour pouvoir prendre des décisions à l'international. Donc, avoir un réseau, donc ça c'est le deuxième point, c'est d'avoir un réseau qui soit très différencié, on va dire, de celui de l'enseignement supérieur. Avoir un réseau chez les militaires, dans la police et dans les ambassades, finalement ça sert aussi pour pouvoir prendre des décisions stratégiques à l'international, et voire même en France. Donc effectivement, je peux dire sur ces deux questions-là, l'intelligence économique m'a servi. Après, pour la façon dont on s'implante à l'international, oui, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et ce que j'ai travaillé comme chercheur en intelligence économique m'aide aussi. La compréhension locale, culturelle, le fait de respecter aussi les environnements dans lesquels on veut s'installer, vivre avec les pays et pas dans les pays, ce qui est une différence très importante. Oui, ça, je l'ai appris, effectivement, dans mes différents mandats en intelligence économique.
Quelles sont vos premières sources d'informations, vos lectures, vos discussions quand vous réfléchissez à une zone ou à un pays pour implanter ce schéma ?
Le réseau, d'abord. Avant tout le réseau, la capacité de contacter des gens qui vivent sur place, qui comptent sur place, qui ont de l'information. L'information blanche, c'est très bien. Tout le monde peut y avoir accès. Notre rôle, souvent dans l'intelligence économique, c'était d'avoir accès à de l'information qui est moins blanche et celle qui nous est beaucoup plus utile. Et donc, effectivement, de savoir utiliser des réseaux pour obtenir de l'information au service du bien commun. Je mets de côté... tout ce qui pourrait être vu comme de la barbouzerie, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, le réseau, c'est probablement la première source d'information fiable, les gens en qui on a confiance. Le réseau qu'on a pu créer depuis des années permet effectivement de prendre des décisions un peu plus justes que simplement celle d'être envahi par une information blanche et d'être un peu perdu au milieu de cet océan d'infos.
Alors, continuez un peu sur Schema, avant de passer à vos missions plus collectives. Quelques chiffres, entre 2010 et 2024, Schema est passé de 6 000 à peu près 11 000 étudiants. Je crois que ça dépend si on prend les étudiants en césure ou pas, donc entre 10 000 et 11 000 étudiants. De la 12e à la 6e place du classement CIGEM, des étudiants après classe prépa, et d'un budget d'environ 55 millions d'euros à 142 aujourd'hui, vous rectifierez si c'est pas... au million près. Cette croissance-là est-elle, à votre avis, réplicable sur les 15 prochaines années ? Est-ce que ce rythme est tenable ?
Alors, très bonne question. Probablement pas. Ceteris paribus, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas continuer de faire 10 à 15% de croissance par an. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on arrive à une situation un peu asymptotique dans le recrutement des étudiants, si on veut maintenir la qualité et si on parle toujours des mêmes produits. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un portefeuille de programmes qui s'est beaucoup développé les dernières années, mais qui aujourd'hui ne se développe pas à un rythme aussi soutenu. Pourquoi ? Parce qu'on est limité aussi par nos capacités de nos établissements. On a 8 sites, on essaie d'être à 2000 étudiants par site, on ne veut pas avoir un effet massif trop important. Et donc forcément, il faut inventer d'autres choses. Donc, dans l'état actuel des choses, non. Mais là, je suis en train de travailler sur les étapes d'après, notamment sur de nouveaux produits, qui ne sont pas nécessairement des produits qui vont venir de la business school, mais qui vont venir des 4 autres écoles que nous avons lancées, qui sont des écoles qui vont s'inscrire aussi dans l'espace-temps, comme on l'a structuré depuis 10 ans, donc sur des sites géographiques différents, et avec des verticales un peu différentes, c'est-à-dire qu'à la fois des briques de premier cycle, et puis des briques de niveau master, et puis des briques d'executive education. Donc on a la possibilité aujourd'hui de démultiplier des nouveaux produits sur des zones géographiques existantes ou qui vont venir, et donc ça nous permettra, d'ici 2-3 ans, de réenclencher un cycle de très forte croissance dans les années à venir. Et au-delà... Pardon, excuse-moi Bernard.
Vas-y. Non, alors justement, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail sur le modèle économique de Schema ? Parce que vu d'où je suis, c'est quand même très particulier, positivement particulier. C'est une école qui n'a pas à rétribuer ses actionnaires. D'ailleurs, elle n'a pas d'actionnaires par construction. Elle n'est pas non plus adossée à un fonds, au moment où on parle beaucoup de ça. Elle s'est un peu éloignée, ou pas mal éloignée, de la CCI. Mais donc, en quelque sorte, elle agit aussi comme une entreprise. Donc, c'est quoi le modèle économique ? Et qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait s'arrêter de marcher ? Ou qu'est-ce qui fait que ça peut marcher de mieux en mieux ?
Alors, effectivement, ce qu'on avait voulu démontrer aussi au démarrage, c'est qu'on peut être dans l'enseignement supérieur d'excellence sans dépendre des fonds publics, sans dépendre de fonds privés, tout en gardant la mission centrée sur nos étudiants, notre faculté, très présente. Et on sait que dans cette mission, et coûte cher chaque fois qu'on veut progresser, que ce soit dans les classements ou en reconnaissance et dans la compétition internationale. Effectivement, on a besoin de beaucoup de moyens. Alors, ça a été, j'allais dire, assez simple quand on a créé Schéma. C'est pour ça que la question de Sarah était très bien. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un palier. C'est qu'en créant Schéma et en essayant de se développer sur plusieurs sites à l'international, en s'ancrant évidemment et en ayant les reconnaissances des ministères de tous ces pays, ça reposait sur un principe extrêmement simple. On sort des étudiants qui sont venus de France principalement, ou en tout cas d'Europe, des campus français, qui étaient, nous on était français au démarrage, on avait 3 sites, on les envoie à l'international et on récupère des internationaux qui vont occuper les sièges des Français ou en tout cas des Européens, parce qu'on avait peu d'étudiants internationaux comparativement aujourd'hui. Et évidemment, ils ne payent pas le même prix. Donc, on enlève des étudiants qui finançaient, qui financent pas totalement l'école, parce qu'on va chercher quand même d'autres sources de revenus. Mais on enlève des étudiants qui finançaient leur siège, on va dire, autour de 10 000 euros, pour mettre des étudiants qui les finançaient à 17 000 euros. Et comme on a fait ça à une échelle très importante, parce qu'on a commencé à ouvrir beaucoup de sites, ça a forcément marché très bien, et ça nous a permis d'avoir cette croissance en termes de revenus très importante, sans dégrader, effectivement, ou au contraire, maintenant, en améliorant la qualité et l'expérience étudiante pour les cohortes.
Juste sur ça, les frais de scolarité, c'est combien dans votre budget, la part ?
Aujourd'hui, ça reste 85%.
Ok.
Oui, alors, vous parlez d'autres sources de financement, c'est qui, c'est quoi ?
Alors, comme toutes les autres écoles, j'allais dire, il y a effectivement, pour la France en partie, la taxe d'apprentissage qui pour nous est quand même autour de 7 millions, l'executive education qui doit représenter aujourd'hui 5% du budget ou 6% du budget, et puis tout ce qu'on peut faire avec la valorisation de la recherche, la fondation, etc. On reste des acteurs, on va dire, très modestes. C'est pourquoi l'idée de développer d'autres produits va nous permettre d'accélérer.
Alors, et ça suffira à 5-10 ans, parce que d'un autre côté, on voit arriver des nouveaux acteurs qui semblent très riches, comparés. Ouais. Et donc, comment on fait face à cette arrivée de nouveaux acteurs avec des moyens ?
Alors, ça, c'est une vraie bonne question aujourd'hui. Et je suis en train de... Moi, j'ai beaucoup défendu le modèle. Alors, pas le modèle subventionné, mais le modèle autonome, mais un modèle d'excellence avec toujours ce souci de qualité. Et donc l'idée de... Nous, on est non-for-profit partout dans le monde. Aujourd'hui, on voit arriver des acteurs for-profit un peu partout, qui ne sont pas nécessairement synonymes de dégradation de qualité aujourd'hui. Pendant des années, moi, j'ai combattu les acteurs for-profit parce que j'estimais qu'on dégradait, on offrait en fait des opportunités complètement dégradées aux étudiants et on mentait en quelque sorte, on ne tenait pas des promesses pour des familles qui nous font confiance, enfin, elles nous confient quand même ce qu'elles ont de plus précieux, on ne peut pas jouer avec ça. Donc j'étais très sceptique. Aujourd'hui, on a vu certains exemples là, on voit arriver des institutions qui s'adossent à des partenaires privés, ou des fonds privés, ou en tout cas des entreprises, ou peut-être d'autres fonds, qui permettent de maintenir la qualité sur certaines lignes de produits et qui finalement supportent ce modèle parce qu'il est résilient dans le long terme et que probablement ils doivent jouer aussi sur la volumétrie du nombre d'étudiants qu'on peut avoir. Et donc probablement c'est un modèle qui peut fonctionner pour des fonds.
Si je vous pousse un peu dans vos retranchements, ça veut dire qu'à terme, vous voyez évoluer vers ce modèle-là ?
Non, je ne l'exclus pas, mais je ne me vois pas évoluer tout de suite vers ce modèle. Mais si on évoluait vers ce modèle, c'est-à-dire je ne l'exclus plus complètement. C'est-à-dire je me dis, je vois toutes les entreprises qui font des augmentations de capital pour pouvoir justement financer leur croissance. C'est pas se vendre complètement, vendre l'institution, voir arriver des fonds ou d'autres majoritairement qui pourraient potentiellement détruire le modèle. Si on peut avoir le même mouvement, puisque moi mon modèle ça a vraiment été la firme multinationale. Quand j'ai créé Schéma, je me suis dit il faut le faire sur ce modèle-là. Il n'y a aucune raison que ça marche dans des secteurs et que ça ne marche pas dans l'éducation. Donc on l'a fait et on a montré que potentiellement ça tient et que ça peut même être très positif. Mais aujourd'hui, toutes ces entreprises-là, quand elles veulent gérer de la croissance, elles arrivent à un moment donné à aller chercher de l'argent pour financer une croissance soutenue. Nous, aujourd'hui, là où on en est avec Schéma, si j'ai pas... Alors, j'ai 2 solutions. J'ai les nouvelles lignes de produits, et ça, on y travaille, on va le faire, mais peut-être que ça mettra à nouveau 6 ou 7 ans. J'exclus pas, à un moment donné, de se dire pourquoi on ferait pas une augmentation de capital pour aller chercher ce plan, pour aller l'accélérer, mais Il faut que ce soit des véhicules qui nous aident pendant un court moment, mais qu'après, ces véhicules doivent sortir.
Donc, schéma attends, chez Galileo, c'est possible
que... Si Galileo accepte d'être minoritaire, why not? Mais je ne pense pas que ce soit leur stratégie.
C'est peut-être une hypothèse que je n'avais pas encore vue, ça, oui. Et alors, justement, on parle de Galileo, on parle de qualité. Qu'est-ce que vous pensez du fameux label qualité dont tout le monde parle, mais en particulier ces temps-ci, tout le monde se demande quand est-ce que ça va être officialisé, entériné?
Alors, moi j'ai participé, et je remercie le ministère de m'avoir mis autour de la table avec les autres acteurs. On a participé effectivement à une réflexion autour d'un label, on ne sait plus trop comment l'appeler, parce que si on l'appelle professionnalisant, ça signifierait que nous, grandes écoles, nous ne sommes pas professionnalisants, et ça, je pense qu'on était avec la CGE et France Université pas d'accord sur ce thème-là. Est-ce qu'on l'appelle privé lucratif? Oui, parce que finalement c'est de ça dont on parle. Donc il n'y a pas de honte à dire que c'est un label qui permettrait d'accueillir dans le sein des institutions visées et gradées par l'État, avec effectivement un certain nombre de critères, de contraintes aussi, parce que nous on a des contraintes et on a des opportunités, mais c'est pas mal aussi qu'ils aient des contraintes, et puis qu'ils puissent effectivement prouver qu'ils sont en qualité. Donc moi je suis pour effectivement une régulation à ce niveau-là, je suis pas pour dire on va donner un blanc-seing à des institutions qui feront que ce qu'elles veulent sans aucun contrôle, et notamment sur la promesse faite aux
pourquoi aux faut-il un label alors qu'il existe déjà la CEFDG?
Parce que probablement, c'est une grande exigence vis-à-vis des institutions. Moi, je l'ai déjà dit avec beaucoup de journalistes, je pense que la France est terriblement exigeante avec ses grandes écoles de commerce, probablement aussi avec ses écoles d'ingénieurs. Mais aujourd'hui, pour être visée et gradée par l'État, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions publiques qui pourraient passer ce que nous, on passe en termes d'évaluation programme par programme. C'est extrêmement exigeant. Alors évidemment, prendre cette exigence et la coller sur des établissements qui sont plutôt dits vocationnels, donc avec des formations plus courtes, plus... Alors, professionnalisant, j'aime pas beaucoup, mais disons vers des métiers qui ne soient pas des métiers d'encadrement ou de management, c'est effectivement... probablement de les ralentir dans la possibilité d'aller former beaucoup de jeunes gens, ou de moins jeunes d'ailleurs. Et donc, si on leur impose ça, et ben forcément, ils ne pourront pas exister. Donc, il faut qu'on puisse les réguler sans nécessairement les empêcher de fonctionner.
Je reviens sur la question de la qualité. Donc, vous avez une vision optimiste, mais pourquoi pas, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'expérience de l'OM Lyon?
Alors, au début... Je pense que tout le monde était un peu tout le monde s'est un peu interrogé sur ce mouvement. Voilà, on s'est tous posé des questions en se disant est-ce qu'il va y avoir une dégradation de la qualité? Galileo avait promis qu'il n'y aurait pas de dégradation de la qualité. Je pense que ma collègue Isabelle Huot, et qui est aussi au CA de la CDFM, fait un excellent travail. Et elle a beaucoup, je crois, elle a beaucoup défendu ce modèle qualitatif pour que on n'ait pas l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui s'est installé à l'EM Lyon et qui va détruire et changer complètement le modèle qualitatif. Aujourd'hui, on en est là. Je pense que le ministère a délivré et a donné et a plébiscité ce modèle, puisque l'EM Lyon a reçu son visa et son grade pour sa grande école, pour les bachelors, etc. Et moi, étant à la commission, on peut attester qu'effectivement, les dossiers sont qualitatifs. Donc là-dessus, j'allais dire, so far, so good, rien à dire. Il faut effectivement regarder comment tout ceci va évoluer. Mais je fais confiance à Isabelle pour, évidemment, défendre le modèle et faire attention qu'il n'y ait pas de cette dégradation. Et c'est un peu en regardant cette évolution que je me dis... On pourrait imaginer, alors il ne faut pas, je pense, des fonds rentrent, deviennent majoritaires et puis disent c'est nous qui commandons et on ne connaît pas forcément comment ça marche, mais on va vous apprendre à faire différemment. Ça, je pense que ce modèle-là ne serait pas bon. En revanche, que des écoles puissent avoir, voilà, à un moment donné, se dire je fais une augmentation de capital parce que j'ai besoin de financer ma croissance, je pense qu'il ne faut pas totalement l'exclure aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain je vais y aller comme ça, tête baissée, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la redistribution des gouvernances à l'échelle internationale, quand on voit arriver effectivement des acteurs privés qui ont des moyens beaucoup plus importants que les nôtres, sauf à ce que l'État nous dise on va vous mettre à disposition un fonds de X milliards pour que vous puissiez vous développer, je ne vois pas trop quelles solutions on va pouvoir avoir pour être dans la compétition.
Oui, mais alors, derrière ces problématiques de business model et de gouvernance, il y a aussi la vision de l'éducation supérieure que l'on porte. En France, on en a peut-être une vision un peu moins marché que dans les pays anglo-saxons. L'université y est gratuite ou presque, accessible et subventionnée. Pour autant, on voit bien que dans certains endroits, y compris dans le public, les choses changent. Des écoles d'ingénieurs coûtent maintenant 3 ou 4 000 euros par an. Et je ne parle pas du coût d'une année d'études dans les écoles privées, consulaires ou associatives comme la vôtre, qui se sont littéralement envolées ces dernières années pour atteindre 15 000, 20 000 euros par an dans les programmes classiques. Est-ce que cette tendance est irréversible, à votre avis ? Est-ce que l'idée de faire des études supérieures quasiment gratuitement relève de l'ancien monde ?
C'est une vraie question, Sarah. Je pense que ce modèle n'est plus tenable. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir un modèle américain à 100 000 dollars l'année ? Non, c'est pas tenable non plus. Et je pense qu'il faut qu'on continue d'avoir cette vision qui est de dire, effectivement, il faut subventionner le public en partie, mais il ne faut pas s'interdire non plus, et je pense que la ministre Vidal l'avait fait, de pouvoir faire payer un peu plus cher des étudiants, par exemple, internationaux. Je pense qu'il y a une contribution à l'éducation, c'est les familles s'interdisent pas d'investir des centaines de milliers d'euros quand elles envoient leurs enfants étudier aux États-Unis, mais en France c'est un gros mot. Donc là il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable effectivement que tout le monde puisse participer à un moment donné à cet effort qui est un effort du bien commun. Et je suis consciente que l'État, j'aimerais pas être à la place de notre président, ne peut pas tout financer. Ou alors il faut faire des choix. Mais je pense qu'on n'est pas prêt à faire des choix aujourd'hui. Donc je pense que oui, il faut réviser le modèle. Alors après, du point de vue de schéma, par exemple, parce que c'est ça qui est pour moi plus important aujourd'hui, nous, en France, on ne veut pas aller chercher encore plus loin des frais d'inscription beaucoup plus hauts pour les familles françaises. Alors après, vous allez me dire, c'est pas sympa pour les autres. Mais globalement, dans d'autres pays, j'ai un campus aux États-Unis, il n'y a aucune limite pour aller financer un bachelor, même de qualité moyenne, à 25 000 ou 30 000 dollars l'année. Ça se fait bien. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais...
Vous voulez dire faire financer les études des Français par vos étudiants internationaux ?
Je pense qu'il faut... Non, pas que les Français. Par exemple, au Brésil, on sait qu'on a une catégorie de la population qui est très à l'aise, mais une catégorie qu'on ne veut pas exclure de venir dans notre campus à Belo, il faut être capable de les aider. Donc on peut imaginer d'avoir un différentiel de FIS aujourd'hui qui puisse... Alors c'est pas le cas, parce qu'on en a parlé dans la conférence de presse aujourd'hui, et Patrice Soudalier l'a dit, le modèle n'est pas celui-là aujourd'hui à Schema. Mais on s'empêche pas de réfléchir différemment. Ce qui est aussi un levier de croissance pour nous, c'est Terris Paribus qui peut être un levier très important. Et il faut pas s'empêcher de le faire. Maintenant, d'aller chercher auprès d'acteurs privés de l'argent pour accélérer notre croissance sans perdre notre âme et sans négocier la qualité, la mission, le recrutement de nos profs permanents et nos accréditations. Nous, on a montré qu'on pouvait être indépendant, autonome, non-for-profit, sans avoir de... Et ça marchait. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aussi imaginer un nouveau modèle qui ne soit pas un modèle destructeur, mais qui soit un modèle d'accélération.
Sarah a rappelé tout à l'heure que vous avez créé la CDEFM et que vous en êtes la présidente. Il y a un grand sujet quand même, mais vous ne l'avez pas encore abordé. Est-ce que c'est un lapsus ou est-ce que c'est volontaire ? C'est les classes prépa. c'est historiquement ça qui a fait la force des écoles, mais bon, les choses changent. Quelle est votre vision là-dessus ? On ferme bientôt ?
Non. Alors, moi je défends, vous le savez tous, j'ai défendu, on a d'ailleurs financé à la CDFM une grande campagne de communication qui était d'ailleurs un succès, qui s'appelle Prépare-toi. On soutient beaucoup le modèle, mais on veut accompagner le modèle pour qu'il puisse être toujours attractif. Aujourd'hui, alors, il y a un grand débat. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est parce qu'il y a eu des bachelors, c'est parce que les classes prépa ne sont pas réformées, c'est parce que je ne suis pas là pour donner... Voilà, et je n'en ai pas la capacité, d'ailleurs, d'expliquer pourquoi, effectivement, on a vu, au fond, un peu pas se dégrader, mais se réduire le nombre d'étudiants qui rentrent en classe préparatoire. Je pense qu'on n'a pas communiqué sur le modèle. Au moment où beaucoup d'autres produits éducatifs sont arrivés dans les portefeuilles de programmes des écoles et des institutions, on s'est dit que finalement c'était acquis, on a peu communiqué sur le modèle prépa grande école qui pour moi est un modèle en 5 ans. Je pense qu'il faut bien communiquer, bien expliquer cette spécificité et montrer en quoi ce modèle reste toujours un modèle d'excellence, de méritocratie et qui a fait effectivement l'image de la France pour l'enseignement du management à l'international. il faut beaucoup le promouvoir. Maintenant, il faut aussi qu'on soit très transparent et que le ministère soit très transparent avec nous, en disant quelle est la vision aussi des gouvernants par rapport à ce modèle-là. Nous laisser avancer et faire beaucoup de choses pour promouvoir le modèle sans savoir si vraiment les gouvernants ont envie de le promouvoir, ça c'est un sujet dont il faut débattre très sereinement et avec eux, et avec les classes préparatoires et avec nous. Moi je défends ce modèle parce que, et juste je fais un petit exemple, mais quand on a créé nous nos campus à l'international, moi quand j'ai créé les États-Unis, tout le monde m'a dit t'es folle, ils t'attendent pas. Mais quand on a exporté le modèle de la grande école et des classes préparatoires aux États-Unis, tout le monde m'a dit le modèle est fantastique, c'est extraordinaire, comment vous faites pour avoir des étudiants de cette qualité-là? Et je pense que on parlait d'ambassade, on peut être vraiment des ambassadeurs et aussi promouvoir ce modèle qui est un modèle extraordinaire, qualitatif par rapport à ce que font nos concurrents à l'international.
Alice Guillon, je suis malheureusement obligée de vous couper, on est déjà très long, on arrive à la fin de ce podcast. Il est temps pour nous de vous poser la question rituelle du grand oral. Quel conseil de lecture ou d'écoute auriez-vous à formuler pour nos auditeurs pour prolonger justement toutes ces réflexions ?
Bon alors, sur l'écoute, moi j'écoute que de l'opéra, donc je ne vais pas vous dire qu'il faut vraiment. Mais on pourrait avoir de bonnes leçons tirées de Turandot, de Simon Boccanegra pour nos institutions. Dans le conseil de lecture, moi je lis beaucoup et c'est très éclectique. J'allais dire, il y a un ouvrage qui m'a marqué profondément quand j'étais jeune, c'est « Comment on écrit l'histoire » de Paul Venn, et qui m'a beaucoup aidée justement dans l'interprétation des faits, dans les récits et dans la façon dont on peut raconter. Comment se sont faites les histoires au fil du temps. Donc ça m'a beaucoup marqué, même dans ma thèse, même dans ma vie. Il y a un livre qui a été un livre de chevet pour moi pendant des années, c'est celui de Tolkien sur le Seigneur des Anneaux. Pareil, c'est un récit, je trouve, extraordinaire qui permet de rêver, mais qui permet aussi de réinterpréter, en fait, beaucoup de nos civilisations. Et ça a été... C'est vraiment les deux livres de chevet que j'ai avec moi. Et là, récemment, j'ai été marquée, ça paraît idiot, mais j'ai été marquée profondément par... Là, j'étais malade la semaine dernière, donc j'ai beaucoup lu, par Veiller sur elle, le dernier prix Goncourt, qui est un ouvrage extraordinaire. Mais il y a toujours l'idée du récit, et du récit historique.
Bon, on est assez loin de la géopolitique et des business schools, finalement.
Non, là, je réponds aux livres qui m'ont marquée.
D'accord.
Après, oui, je lis plein, et j'ai écrit des ouvrages sur les business schools, mais j'allais dire, c'est plus notre quotidien.
Mais ça,
c'est
ceux qui ne les conseillez pas.
Si on veut s'endormir le soir, oui.
Merci beaucoup de nous avoir rendu visite au studio Module, Alice Guillon.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Bernard. Merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci.